Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast Elle s'attable.
Elle s'attable.
Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable. Une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bienvenue pour ce troisième épisode d'Elle s'attable. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Chef Anto, une merveilleuse cuisinière, l'ambassadrice des cuisinières africaines, qui nous a donné rendez-vous dans le nord de Paris, dans le 18e. Nous sommes au café Va-et-Vient, d'où ce petit bruit derrière nous, au bord d'un quartier ultra animé, qui est celui de, entre guillemets, l'Afrique à Paris. Bonjour Chef Anto.
Bonjour Danielle.
Merci infiniment d'avoir accepté de passer un moment avec nous. On va parler ensemble cuisine africaine, place des femmes dans les restaurants, produits également africains, culture au sens large, et puis de la manière dont vous avez tracé votre route dans un univers qui était assez éloigné de vos bases.
Elle s'attable.
D'abord, petite question, Anto, c'est votre prénom, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors Anto vient de mon premier prénom qui est Antompindi, qui veut dire femme des champs, donc Anto femme, Pindi champ. Et en France, comme les gens avaient un peu de mal à prononcer Antompindi, j'ai juste coupé Anto, qui veut dire femme, tout simplement.
Alors, vous venez du Gabon, et rien ne vous prédestinait à la cuisine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu comment vous êtes venue en cuisine ?
Alors, j'ai grandi au Gabon. J'ai eu un papa ingénieur, une maman nutritionniste. Et quand une fille est censée être bien élevée en Afrique, il faut qu'elle sache cuisiner. Parce que si elle ne sait pas cuisiner, elle n'est pas bonne à marier. Puis j'avais une maman qui voyageait pas mal. Elle m'a dit, quand je ne suis pas là, c'est toi qui me remplaces. Et donc, dès l'âge de 9 ans, j'avais un petit tabouret sur lequel je devais monter pour être à hauteur de la gazinière. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers plats. Donc au début, je ne pensais pas que c'était une passion, mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'était un lieu que j'affectionnais particulièrement.
Vous m'avez raconté, quand on a préparé cette émission, quand vous étiez enfant, on mangeait beaucoup de cuisine gabonaise chez vous, mais également de la cuisine, on va dire peut-être française, et que votre mère était déjà passionnée de cuisine et avait énormément de livres de cuisine.
Exactement, maman, elle avait toute une collection, et je me rappelle le premier livre qu'elle m'a donné, ça s'appelle « La cuisine au pays du soleil ». Alors c'était marrant parce que c'était des livres sans images, donc il fallait être très imaginatif. Contrairement à aujourd'hui, on peut voir à quoi ça ressemble et le résultat, vous ne saviez pas si vous aviez réussi ou pas. Et donc, c'est avec ça, justement, j'ai appris à faire des quiches Lorraine, les premiers gâteaux. Alors, les gâteaux, c'était, voilà, le marbré, cake au citron, ce genre de choses. Et j'ai été étonnée, d'ailleurs, quand je suis arrivée en école de cuisine en France, de savoir que je savais faire une pâte brisée, contrairement à d'autres collègues qui l'achetaient déjà toute faite.
Vous arrivez en France, un peu par hasard aussi, parce qu'on vous destine à une fac de lettres,
oui,
grosso modo. D'ailleurs,
exactement.
Vous commencez. Et vous nous avez expliqué que, finalement, vous aviez développé déjà un petit business de cuisine assez jeune.
Lorsque j'étais en quatrième, je faisais des muffins, des madeleines. J'avais une grosse boîte hermétique et je les vendais dans ma classe. Donc, on m'appelait Maman Gâteau. Au final, en terminale, je vendais dans tout le lycée, je vendais dans mon quartier quand des gens faisaient des mariages. Alors, papa, lui, ça ne le gênait pas, tant que j'avais de bonnes notes. Et pendant que tout le monde dormait à la maison... Et moi, le soir, je faisais mes gâteaux et tout. J'attendais qu'ils cuisent. Je les mettais en boîte. Et puis, le matin, tout le monde se réveillait. Les gâteaux étaient prêts. Et puis, j'allais les vendre. Et ma mère, quand elle a vu ça, elle a dit à mon père, écoute, elle ne connaît pas grand-chose à la cuisine. Et regarde comment elle se débrouille. Si on la laisse, ben, au pire, quand elle revient, ben, elle travaillera en cuisine à la présidence ou dans un ministère. Voilà.
Et donc, vous partez pour la France?
Exactement, oui.
Vous arrivez à Grenoble,
oui,
d'abord, où vous m'avez dit que ça avait été une année assez complexe, parce que c'était une année au cours de laquelle vous avez dû être, entre guillemets, remis à niveau.
Déjà, par rapport à la température, parce que je viens d'un pays très chaud, tropical, premier hiver, moins 10 degrés. Ensuite, on découvre une autre cuisine, une autre façon de cuisiner, où en cuisine, on assaisonne que sel, poivre. Alors que moi, j'ai appris à mariner les ingrédients, à mettre pas mal d'épices et tout ça. Où j'apprends aussi à gérer les doses, parce qu'on est habitué à faire avoir un grand plat unique où on charge son assiette. Et puis là, en cuisine, on me dit, ben non, il y a l'entrée, il y a la mise en bouche, il y a l'entrée, il y a le plat et le dessert. Donc, si tu charges déjà comme ça pour l'entrée, ben, ils ne pourront pas manger à la fin. Donc, il faut vraiment se remettre à niveau sur tous les plans. Et puis, il y a la culture française que je connais pas. Les fromages, les vins, les différents produits. J'apprends justement les produits français. Qu'est-ce qu'on fait? Les codes aussi de la cuisine française. La cuisine des régions. Donc, j'apprends tout ça la première année.
Vous continuez, vous décidez d'aller plus loin. Vous arrivez à Paris, à l'école Ferrandi. Et là, assez rapidement, vous spécialisez sur tout ce qui est événementiel. Pourquoi ce choix de cette catégorie-là?
Pendant que je préparais mon BTS à Grenoble, j'ai fait un stage à Cannes, au Carlton. Et là, j'ai découvert en fait tout ce qui était événementiel, donc le traiteur. Et donc, je découvre tout cet univers et je me dis, ben, je vais apporter ça au Gabon. Parce que le projet à la base, c'était de venir me former ici et de rentrer au Gabon. Et à l'époque, il n'y avait que deux écoles qui le faisaient. C'était l'Institut Paul Bocuse à Lyon ou Ferrandi à Paris. Et je suis montée à Ferrandi.
Très vite, vous trouvez votre voie dans l'événementiel. À la fin des études, vous repartez au Gabon, mais ça ne marche pas.
Non, j'étais très déçue parce que ça faisait 8 ans que je n'étais pas rentrée, parce que je suis arrivée en 2002, je repars en 2010. Pendant 8 ans, je n'ai pas vu la famille, je n'ai pas vu les parents. Et je me rends compte que les mentalités n'ont pas vraiment évolué parce que quand je cherche du travail, on me dit bah « non, ça ne sert à rien de déposer votre CV, on ne veut pas de femmes à ce poste parce que les femmes, c'est bien pour cuisiner à la maison ». Je dis, mais regardez mon CV, regardez avec qui j'ai travaillé, je parle même anglais. Et il me disait, ben, en fait, ça n'intéresse pas, nous, on ne veut pas de femmes. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais emprunter et ouvrir mon propre établissement. Et là, je découvre que les banques en Afrique ne prêtent pas pour ouvrir un restaurant. Et donc, je reviens en France un peu à contre-cœur, parce que je me rends compte que pendant 8 ans, où j'ai quand même fait certains sacrifices, parce que le but, c'était de rentrer, de participer à la construction du pays. Mais en fait, je ne peux pas faire ce que je veux là-bas parce que les mentalités n'ont pas encore évolué.
Donc, vous revenez en France,
oui,
et vous découvrez assez vite qu'il y a un créneau,
oui,
qui est celui de la cuisine africaine. Parce qu'en France, il y a une communauté africaine très importante. Il y a des restaurants africains en France, mais il y a finalement assez peu de restaurants ou de cours de cuisine qui permettent aux Européens, aux Français, de découvrir ce que peut être la cuisine africaine ou les cuisines africaines. On en parlera parce que ça, c'est une vraie question.
Mais c'est exactement ça. En fait, en travaillant chez des traiteurs, et c'était des gros traiteurs comme le nôtre, Potel et Chabot, Butard et Messot, qui sont quand même des traiteurs parisiens qui sont très connus, il y a ce qu'on appelle la Bible. Et la Bible, c'est en fait un gros document où vous avez toutes les pièces, cocktails, plats qui sont référencés. Et quand un commercial veut faire une commande ou proposer quelque chose à un client, il regarde dans la Bible. Et très souvent, quand on regardait dans la Bible, au niveau de l'Afrique, vous aviez Afrique du Nord, mais quand c'était Afrique subsaharienne, au niveau des desserts, ils s'en sortaient parce qu'on partage énormément de produits avec les Antilles. Mais au niveau du salé, en fait, ils inventaient des plats. Et à chaque fois, je disais, mais ça, c'est pas africain, qui vous a dit ? Mais ils sortaient des choses, je disais, mais comment
Totalement fantaisiste.
Ah oui, exactement. Et ils disaient, mais en fait, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment une méconnaissance au niveau de nos produits. Et je me dis, ben, je vais utiliser les connaissances que j'ai et ce que j'ai appris à l'école. Je vais associer les deux pour pouvoir offrir justement aux gens qui veulent connaître ça, quand il y a une demande, pouvoir leur proposer ce type de service.
Le plat du jour aujourd'hui, c'est une souris d'agneau avec une sauce saka saka et des frites de chikwang.
Alors mes plats préférés, c'est le saka saka.
Le poulet déjà, j'aime trop ça.
C'est un plat avec des feuilles de manioc.
J'aime aussi ce qu'on appelle chez nous le moussaka.
Il est comment le piment ?
Ça pique, hein ?
Pour moi, c'est la cuisine, une cuisine très savoureuse.
Et voilà quoi, en fait. La fête, hein, c'est festif, c'est une cuisine festive aussi.
Pour moi, c'est la meilleure cuisine au monde.
On va quand même remettre un tout petit peu en contexte. Hein. L'Afrique, c'est une soixantaine de pays. C'est 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire trois fois la surface de l'Europe tout entière. C'est quand même plus de deux fois la population européenne. Et dans l'absolu, il n'y a pas grand-chose de commun entre la gastronomie marocaine et celle qui est peut-être pratiquée au Zimbabwe. Pourquoi y a-t-il cette espèce de simplification sur la cuisine africaine ?
Au début, les gens ne s'y intéressaient pas vraiment. Et puis, au début, les gens ont eu l'impression que c'était souvent les mêmes plats. Pourquoi ? Parce que souvent, dans les restaurants et même chez les traiteurs, quand il y avait le plongeur, il était souvent d'Afrique de l'Ouest. Et souvent, il ramenait la nourriture de sa femme. Et c'était quoi ? C'était le tieboudienne, c'était le yassa, c'était le mafé. Et donc, les gens se sont dit... Il n'y a que ça.
L'Afrique, c'est ça.
Exactement. Et d'ailleurs, je défie, vous demandez à n'importe qui un plat d'Afrique, c'est le top 3. Et puis donc, je pense qu'il y a eu des côtés d'Africains un peu de paresse, où ils n'ont pas voulu...
Une forme de facilité.
Voilà, c'est autant proposer ça. Et puis du côté des autres, ils ont toujours vu ça, donc ils se sont dit, ben, c'est que ça, et donc c'est la cuisine africaine. Quoi.
Vous nous disiez aussi, lorsqu'on a préparé cet entretien, qu'il y avait peut-être quelque chose qui bloquait un peu, notamment les Européens ou les Français, qui est que la préparation des plats est complètement différente, et la présentation aussi est complètement différente.
Exactement. Alors moi, je l'ai su, je m'en suis vraiment rendu compte, d'abord en faisant l'école, et ensuite parce que j'ai épousé un Français. Et quand je cuisinais, souvent ils me disaient « Ah, oh, ça sent trop fort !» Je disais « Mais tu rigoles ou quoi ? Le Munster, ça sent trop fort aussi, mais on ne fait pas... »
Et on en parle du Libaro.
Des fois, ils me disaient « Oui, mais ça, qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Enfin, ils regardaient souvent certains plats de façon horrifiée parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait dedans. Et moi, je me suis amusée même à aller sur des sites comme TripAdvisor ou La Fourchette. Et à regarder les commentaires aussi des restaurants africains. Et souvent, ce sont les remarques qu'ils ressentent. C'est que quand les gens ne connaissent pas un plat, ils voient un produit,
ils ne peuvent pas l'identifier.
Il y a beaucoup de plats en sauce, on ne sait pas trop c'est quelle viande. Donc... Mais après, je comprends que la cuisine, ici, a un autre langage. Et c'est vrai que souvent, j'ai des confrères chefs qui disent « Oui, pourquoi c'est toujours à nous de faire l'effort de pouvoir travailler nos produits ?» Et je leur ai dit « Vous savez, si vous allez en Chine... et que vous voulez parler un chinois, il faut parler sa langue. Vous ne pouvez pas lui dire, moi, je parle Wolof, je vais...
Tu vas apprendre Wolof.
Exactement. Vous ne pouvez pas lui imposer quelque chose alors que vous êtes chez lui. Si vous voulez qu'il comprenne ce que vous voulez lui dire, il faut faire l'effort de parler son langage. Et c'est là que je me suis dit, il y a un défaut de langage. Parce qu'on veut proposer quelque chose, mais ceux avec qui on veut s'adresser comprennent autre chose. Donc il va falloir en fait leur proposer la même chose, mais présentée de façon différente. Le défi surtout, c'est de pouvoir garder le même goût, mais de travailler la présentation. C'est-à-dire, si je dis que c'est un mafé, il faudrait que n'importe qui, quand il goûte, dise oui, exactement, j'ai le goût du mafé. Mais visuellement, ça ne ressemble pas au mafé.
Et alors, est-ce qu'ils ont été apprivoisés ? Est-ce que ça a marché ? Est-ce que ça marche aujourd'hui d'être traiteur ou consultante, justement, dans l'univers au sens large des cuisines africaines ?
Bien sûr que ça marche. Moi, j'ai commencé en plus en tant que chef à domicile. Et chef à domicile, ça m'a beaucoup aidée parce que je pouvais vraiment, j'étais vraiment dans l'intimité des clients. J'étais là que pour eux et je pouvais leur poser des questions déjà en amont, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Des fois, tout de suite, « Ah non, mais nous, on n'aime pas trop le piquant. » Donc, c'était pour leur dire, « Mais vous savez, il n'y a pas que du piment chez nous. En plus, on peut mettre le piment à côté. Et en plus, il y a différents types de piments qu'on peut utiliser. » Donc, il y a vraiment une démarche pédagogique. Et je suis très contente quand, à la fin, ils me disent, « En fait, vous nous avez donné envie d'aller là-bas pour vraiment découvrir. »
Vous êtes femme.
Oui.
Vous êtes noire.
Oui.
Est-ce que ça a été compliqué dans votre parcours, notamment dans les cuisines, d'être femme et noire?
Alors, à moins que je sois naïve, je ne me suis jamais sentie attaquée, en tout cas au niveau de ma couleur de peau en cuisine. J'ai eu la chance d'avoir des super maîtres de stage et aussi là où j'ai travaillé, des patrons qui étaient vraiment super. Et puis souvent, c'était « il faut taper dedans ». Par contre, en tant que femme, c'était pas facile parce que dès qu'on était un peu énervée, ça y est, t'as tes règles. C'était ce genre de réflexion. Ou dès qu'on voulait porter des choses un peu lourdes, ben non, c'est pas pour les gonzesses, ça. Et donc, il y avait toujours ces remarques un peu misogynes. Mais je disais que le fait d'être femme, je l'ai beaucoup plus ressenti quand je suis rentrée au Gabon.
Côté produits, dans les produits vraiment issus de l'Afrique, parce que l'Afrique est un continent de mélange, un continent de brassage, il y a énormément de brassage de population, un continent dans lequel beaucoup de produits sont arrivés depuis très longtemps, notamment par l'Est, depuis l'Asie.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Depuis le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, il y a des produits dont on pense qu'ils sont africains, mais qui ne viennent pas forcément d'Afrique. Mais si on prend les produits vraiment locaux, le mil, le sorgho, le fonio, l'igname, la pintade, les pois, il y a les pois bambara et les pois doliques, certaines courges, les gombos, l'huile de palme, les fruits du baobab, le tamarin. En fait, il y a une multitude de produits qu'on ne connaît pas, ou peu, en dehors du continent africain. Est-ce que vous voyez également un intérêt grandir vis-à-vis de ces produits? Et est-ce que vous pensez que ce sont des produits qui sont potentiellement des solutions aussi pour nourrir le monde demain?
Exactement. Il n'y a qu'à voir nos céréales. Vous parliez du fonio, le mil, le sorgho, qui sont des smart food. Donc smart food, aliments intelligents, parce qu'ils sont bons pour l'homme, donc à cause de leur valeur nutritionnelle. Ils sont bons pour la planète. Ce sont des plantes qui poussent dans des zones semi-arides et donc qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir pousser comme il faut. Et bons pour le producteur parce que ce sont des plantes à fort rendement. Ce sont des plantes qui rentrent vraiment dans ces catégories-là et qui ont leur place et qui, demain, peuvent aider justement à être des solutions, en tout cas pour la planète. Il y a le niébé qu'on appelle le haricot magique. L'Afrique est l'un des plus gros producteurs de niébé au monde. Je me rappelle que ma maman, nutritionniste, quand les femmes n'arrivaient pas, parce qu'elles n'avaient pas assez de moyens à donner de la viande à leurs enfants, elle leur faisait des recettes à base de niébé parce que c'est riche en protéines et ça remplace très bien la viande. Et encore en Afrique, nous avons cette notion de alicament, l'aliment qui soigne. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Et donc, avant d'aller à l'hôpital, souvent quand il y va, c'est vraiment, j'ai tout essayé et ça n'a pas marché.
J'ai tout donné.
Donc,
et là,
si, peut-être que la médecine du blanc va me sauver, mais là, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Et c'est souvent avec les aliments, là où en Occident, les gens veulent revenir à ce mode de consommation, nous, on l'a encore. Et c'est pour ça que j'encourage souvent les gens qui sont là-bas, mais il faut continuer, il faut écrire, parce que nos cultures sont encore trop orales, il faut écrire pour que tout ce savoir-là ne se perde pas.
Vous êtes aujourd'hui une forme d'ambassadrice des cuisines africaines. Comment est-ce qu'on parvient à cela ? Je m'explique. Vous travaillez comme directrice artistique pour un magazine et un site qui s'appelle Afro Cooking. Vous êtes consultante, vous développez des recettes de cuisine pour un certain nombre de marques, notamment à partir de produits qu'on commence à voir arriver. Vous êtes présidente du festival We Eat Africa, qui a eu lieu pour la première fois en 2018 à Paris, ensuite en 2019 à Dakar et qui va re-avoir lieu en 2021 à Paris. Vous êtes également sur Canal+, vous animez une émission. Comment devient-on l'ambassadrice des cuisines africaines ?
Tout ça, je ne l'ai pas vu arriver. C'est des choses qui sont venues au fur et à mesure. Et je pense qu'il y avait vraiment un grand vide aussi. Et la nature a horreur du vide. Je ne peux pas dire parce que j'étais meilleure ou tout ça. Il y a un grand vide. Et surtout, j'assume. Et moi, ce que je veux, c'est rendre aux Africains, les rendre plus amoureux de leurs produits. Encore plus fiers, exactement. Et puis montrer à d'autres communautés que nous aussi, nous avons des produits. Parce que je pense, en faisant cela, on peut faire travailler des villages, on peut faire travailler des coopératives sur place qui sont spécialisées dans ça et qui en ont vraiment besoin. Ça aide à développer aussi le continent. Donc après, est-ce que c'est un coup de chance ? Je ne sais pas, mais moi, je l'ai fait vraiment de tout mon cœur et j'espère qu'on sera plus nombreux à le faire aussi.
Alors justement, vous êtes avec Canal+, maintenant, une ambassadrice de cuisine africaine cathodique aussi, puisque Canal+ Afrique, avec vous, a développé un programme au cours duquel, tous les ans, vous visitez quatre pays africains. C'est une sorte de documentaire dans lesquels vous mettez en avant les produits, la manière de cuisiner, les savoir-faire, etc.
Ce mois-ci, dans Rendez-vous avec le chef Anto, partez en République démocratique du Congo.
Pour Ezo Banda Sikoyo, ça commence maintenant.
Kinshasa offrira ses saveurs extraordinaires.
Ça, c'est la muscade qu'on trouve ici au Congo.
On dirait du poulet.
C'est bon, hein?
Vous allez voir.
Le chef Yubi servira ses légumes et ses ingrédients surprise.
J'y crois pas, on va me faire manger les chenilles et les grillons.
On a la petite salade tropicale.
Laissez-vous embarquer dans Rendez-vous avec le chef Anto en République démocratique du Congo, dans les Mardis de l'Afrique.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce programme et les expériences un peu étonnantes que vous avez pu découvrir grâce à cela ?
Alors, Canal+, j'ai rencontré le directeur des programmes en 2018. Et à cette époque, en fait, ils avaient déjà un chef qui préparait l'émission pour les Mardis de l'Afrique. Lui faisait beaucoup de la fusion. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment rester dans l'Afrique, mais présenter l'Afrique de façon moderne. Et donc, suite au festival, le directeur des programmes m'a contacté et nous a dit, écoute, nous, on aime bien notre vision des choses qui est différente de l'autre chef. Est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir faire aussi l'émission, mais d'apporter, en fait, votre vision des cuisines? Et moi, je lui ai dit, à une seule condition, c'est qu'on aille dans les villages. Parce que c'est là qu'il y a encore tout ce qui est tradition au niveau des produits et tout ça. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Le premier voyage qu'on a fait, c'était en Mauritanie, où j'allais à la découverte du couscous, parce qu'on connaît beaucoup le couscous d'Afrique du Nord avec la semoule de blé. Il faut savoir qu'il y a différents couscous. Donc, je découvre le couscous de Mil en Mauritanie avec la viande de chameau. Et donc, on a fait la Mauritanie, on est allé au Gabon pour
cuisiner. Qui a été aussi une source de surprise, alors
oui,
que c'est votre pays d'origine.
Exactement. Cuisiner avec les pygmées dans la forêt, des pygmées qui étaient végétariens, qui m'ont fait découvrir des asperges vertes en pleine forêt gabonaise. On est allé au Kenya, on a cuisiné avec des Maasai. On est allé au Sénégal, j'ai participé à la récolte du riz, le riz de Casamance. On a fait le Togo, on a cuisiné avec les guerriers du peuple Tamberma, avec la chasse à la pintade. Et puis la République démocratique du Congo, où j'ai découvert les makelele, qui sont des grillons, les mbinzo, qui sont les chenilles, et puis un crocodile qu'ils ont. Alors il faut vraiment la défense des animaux, il ne faut même pas y penser, parce qu'ils ont apporté le crocodile vivant, ils l'ont tué devant moi, dépecé, ils l'ont cuisiné. Et, par contre, c'était très bon.
Bon. À leur recherche, il y a énormément de crocodiles, c'est même parfois dangereux.
Quand on voit la chair, on paraît du poulet. En fait.
Ouais, mais au goût?
Au goût, ça ressemble au poisson.
Oui, ça ressemble totalement du poisson.
Au début, quand on le voit couper la tête du crocodile, on se dit le chef, c'est un sanguinaire, mais en fait, on voit aussi tout l'amour qu'il porte à la viande qu'il a tuée, comment il le prépare avec soin, comment il s'apprête à faire plaisir aussi aux clients.
Quel regard les chefs européens portent-ils et notamment les chefs gastronomiques, portent-ils sur votre travail ?
Thierry Marx l'a dit, c'est le dernier continent, en tout cas il parlait d'Afrique subsaharienne, c'est le dernier continent à découvrir en matière de gastronomie. Parce qu'il y a énormément de choses, que ce soit au niveau des produits, les épices, les céréales, c'est vraiment le dernier continent à découvrir. Il y a beaucoup de choses à voir. Ils se rendent compte de leurs lacunes. Maintenant, il faut franchir le pas. Quelques-uns arrivent à aller au Sénégal. Mais il n'y a pas que le Sénégal, il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique, comme on disait, c'est 54 pays. Il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, j'encourage les Africains à faire la promotion de leurs produits, parce que pour faire venir les gens...
Alors, malheureusement, on va pouvoir y aller pendant ce podcast. Peut-être sur la saison 2, on verra. Mais vous allez nous emmener. Là, on va se mettre en route pour aller faire un tour dans les épiceries africaines.
Exactement.
Autour de Château Rouge.
Exactement.
On y va.
Elle s'attable.
Voilà, nous arrivons rue des Poissonniers, dans donc, le quartier qui se trouve tout près de Château Rouge.
Exactement.
Devant une épicerie qui s'appelle Pro Exocom. Gros demi de gros détails, ils font tout. Et déjà, dans la vitrine, on voit... Alors, il y a des conserves, des produits frais.
C'est vraiment des produits typiques de chez nous, que ce soit au niveau des épices, des confiseries, des conserves. Et ça, c'est une épicerie qui est tenue par des Camerounais.
D'accord. Voilà. Alors, on y va.
Oui.
Ça sent bon. Alors devant nous, donc des tas d'étagères remplies de paquets et également des produits frais. Ça sent assez fort. C'est quoi ? C'est du poisson séché, l'odeur qu'on a ?
Alors il y a le poisson séché, donc vous avez salé, vous avez fumé aussi, parce qu'il faut savoir que les modes de conservation, donc c'est souvent la salaison, le fumage, le séchage.
Alors il y a le problème de la conservation, mais il y a aussi le goût.
Ah oui, totalement. Totalement. Déjà, le fumé, ça donne vraiment ce goût à la sauce et tout ça. Et c'est pour ça, honnêtement, moi, j'ai du mal avec les poissons fumés en France parce que je trouve que ce n'est pas assez fumé. J'ai connu le poisson fumé qui est très, très, qui est vraiment concentré.
Et très sec.
Et très sec. Et quand on le cuisine, ben justement, on a une saveur particulière.
Là, on est dans le rayon des racines.
Là, vous avez patate douce.
Oui. Qui est une patate douce violette, celle-ci.
Là, c'est patate douce blanche. Donc, vous avez le macabo. Donc, macabo, c'est comme le taro.
Oui.
Donc, c'est la
là,
même
c'est
famille.
Vraiment les tubercules, ici.
Exactement. Et ça, c'est le manioc. Là, par exemple, c'est le bobolo, ouais. Qui est un manioc qui vient du Cameroun. En fait, on fait une pâte, on le fait tremper, on les sort, on pile et on le met dans des feuilles pour donner une forme. Ensuite,
d'accord.
On le cuit à la vapeur et ça vous fait comme un pain de manioc. Après, avec le manioc, on peut faire aussi ce qu'on appelle le foufou. Donc là, vous avez différentes farines. On peut faire la tieké, qui est le couscous de manioc. Un couscous qui a vraiment la texture du couscous et tout, mais c'est du manioc.
Là, on a la fameuse huile de palme. Alors, l'huile de palme, c'est l'huile de base de l'Afrique, non ?
Alors, je précise, huile de palme rouge, non raffinée. Parce que quand j'ai des clients qui me disent « Oui, attends, non, mais c'est cancérigène, l'huile de palme » et tout ça, je leur dis « Huile de palme rouge non raffinée qui est riche en vitamine A et qui, avant qu'on ne connaisse l'huile de palme raffinée telle qu'on le connaît, avant, nous, c'était l'huile de palme ou l'huile de coco, mm-hmm. ou l'huile qu'on pouvait extraire de l'arachide.
» Oui, qui étaient les matières grasses de base.
Quand on a un peu la nostalgie, ben c'est ici qu'il faut venir.
Oui, c'est ça. Et ça permet de faire un voyage rapide. Ça, qu'est-ce que c'est, les petits fruits violets ?
Certains appellent prune, d'autres appellent safou. Nous, au Gabon, on dit atanga.
Vous connaissez le bienfait des prunes, hein ?
C'est voilà, ce fruit violet qui a un petit, léger petit goût d'avocat.
Ah, ça ressemble effectivement à l'avocat, oui. À l'intérieur.
On peut faire de l'huile et du beurre avec.
Et alors là, on a le produit mythique africain. Le produit sans lequel on ne fait rien.
Ah non, je ne suis pas d'accord.
Non, je suis d'accord avec vous, sauf que je me rends compte qu'il y a quand même énormément de cuisiniers et de cuisinières en Afrique,
oui.
Y compris à la maison, qui en mettent dans tout.
Malheureusement, ils ont bien réussi leur com.
Cube magie.
Ils appellent ça le corrige madame.
Ah.
Malheureusement, aujourd'hui, nos épices sont délaissées à cause de ça. Bon, il y en a qui font même le mix des deux. Et malheureusement, les gens ne savent pas le doser. Ils en mettent beaucoup. Et le problème, c'est que c'est riche en sel. Et ça peut causer des problèmes.
Bonjour. Et là, nous avons un monsieur qui est en train de trier des arachides.
Oui, exactement. Des arachides du pays.
Donc là, c'est encore frais et c'est encore dans les gousses.
Et puis tous les poissons, énormément de poissons aussi. Beaucoup de poissons congelés. Ah, le fameux tilapia qu'on voit partout maintenant. Il y a de la sole, du bar, du chanchard.
Après, ce sont les poissons que les gens dans notre cuisine préfèrent. Et là, après, on a les différentes, ce qu'on appelle épinards, mais après, chacun a son nom. Il y a le fameux ndolé, qui est cette feuille un peu amère qui sert à faire le plat national camerounais qu'on appelle ndolé. On a le sakasaka, donc feuille de manioc pilée. Le folon, qui sont les feuilles d'amarante. Et après, toutes nos conserves de tomates, de pâtes d'arachide,
de
palme.
Le lénido.
Oui.
Je crois même que je vais acheter une petite boîte.
Le lénido, l'arôme que certains mettent dans les grillades et tout ça. Les fameux pots de mayonnaise lorsqu'on achète tout ce qui est street food.
Il y a une énorme culture également, on a dans les cuisines africaines, de la street food.
Oui. Oui, oui, ben, vraiment acheter au bord de la rue. Déjà, nous, je me rappelle le goûter. Mmh. Le goûter, ce n'était pas les biscuits tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est, on allait, il y avait une dame, elle faisait les gâteaux qu'elle faisait frire, qu'on appelait les mikatés. Et puis, on achetait nos mikatés pour 100 francs et c'était ça, nos goûters, quoi.
Alors, on va terminer notre petit tour dans cette épicerie. Merci. On vous donne rendez-vous donc pour le festival We Eat Africa qui devrait
Exactement.
Avoir lieu
en juin 2021.
Pour tous ceux qui ont la chance d'être abonnés à Canal Plus Afrique, précipitez-vous sur les documentaires.
Oui, c'est rendez-vous avec le chef Anto et puis
voilà. Il va peut-être y avoir bientôt un glossaire de cuisine africaine que vous allez publier en
Exactement.
Plus du livre déjà sorti l'année dernière.
Exactement. Donc c'est Good Afrique qui est sorti l'année dernière aux éditions Mango et puis on est en train de préparer justement une sorte de dictionnaire avec tous nos produits et expliquer dans toutes les langues comment ils s'appellent et aussi avec des photos pour que les gens puissent vraiment se familiariser et ne plus être perdus lorsqu'ils vont dans une épicerie et veulent acheter un produit.
Et puis, à tous, répétons-le, l'avenir de la cuisine s'écrira notamment en Afrique. Il est temps de s'intéresser à ce continent. Merci beaucoup, Chef Anto.
Merci beaucoup à vous.
À bientôt pour un nouvel épisode d'Elsa Table.
Elsa Table. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elsa Table, en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.